présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le port du masque obligatoire dans tout Paris à partir de demain matin. Le gouvernement veut montrer qu'il est prêt à faire face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, analyse d'Anne Fauquemberg. Le secteur du tourisme sinistré en Île-de-France, l'activité s'est effondrée au premier semestre, mettant en danger des milliers d'entreprises. La région voudrait rassurer les touristes avec un label de sécurité sanitaire, nous dira Sarah Ders. Emmanuel Macron interdit cette année la chasse à la glu des grives et des merles, une pratique considérée comme une tradition millénaire par la Fédération nationale des chasseurs, mais vivement dénoncée par les défenseurs de la cause animale, analyse de Stéphane Robert. La reprise en main se poursuit à Hong Kong. Un manifestant hongkongais qui espérait trouver refuge à Taïwan a été arrêté alors qu'il avait déjà pris la mer. Correspondance de Florence de Changy. Étrange tendance, enfin, sur l'application TikTok, des adolescents se filment grimés en victimes des camps nazis. Le musée d'Auschwitz s'inquiète de la diffusion de vidéos qu'il juge dangereusement proches ou déjà au-delà d'une banalisation de l'histoire. Il nous faut vivre avec le virus, constate Jean Castex. L'épidémie se prolonge et les chiffres des contaminations remontent sur tout le territoire. Plus de 800 patients Covid sont admis à l'hôpital par semaine et 21 départements sont désormais placés en zone rouge, zone de circulation active du virus. Lors d'une conférence de presse à Matignon, le Premier ministre a dressé un état des lieux détaillé de l'épidémie. Il a aussi clarifié la nouvelle doctrine de l'État en matière de port du masque. Il est obligatoire dans tous les espaces fermé et sera généralisé en extérieur dans tout Paris à compter de demain matin 8h. Le ministre de la Santé a ensuite expliqué comment le gouvernement s'employait à traquer le virus. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous avez retenu des explications d'Olivier Véran ?
Eh bien que les capacités de test vont encore monter en puissance après les déboires post-confinement. Olivier Véran assume son ambition, placer la France dans le peloton de tête des pays qui testent. Le gouvernement veut monter à court terme à 1 million de tests par semaine contre plus de 800 000 actuellement. Alors il peut y avoir un petit peu d'attente à cause de la période estivale, mais tout devrait rentrer dans l'ordre, assure le ministre. Un ministre qui enchaîne sur l'action de l'assurance maladie, des agences régionales de santé et des médecins pour isoler les cas contacts.
Cas contact, qu'est-ce que ça veut dire? Je le rappelle brièvement, ça veut dire que vous avez été en contact prolongé, étroit, avec une personne qui a été déclarée porteuse du virus, donc potentiellement contagieuse. Et il est donc possible, mais pas certain, que vous ayez été vous-même contaminé par le virus. Il est fondamental, fondamental de répondre aux questions qui vous seront posées de manière à nous permettre d'identifier les personnes cas contact autour de vous. Si vous-même êtes un cas contact, lorsque vous êtes appelé, il est tout aussi important de répondre aux questions qui vous sont posées, d'aller vous faire tester et de rester chez vous en limitant vos contacts comme cela vous est expliqué lorsque vous êtes appelé au téléphone.
Il insiste, Olivier Véran, car selon lui, de plus en plus de Français, par lassitude, ne veulent plus participer à cet exercice d'identification des cas contacts qui pourtant est central dans la lutte contre l'épidémie. Toutefois, conscient que la quatorzaine, toujours en vigueur en cas de suspicion, est trop longue pour les Français, il dit vouloir la réduire, cette quatorzaine, mais il attend un feu vert du Conseil scientifique. Enfin, la stratégie numérique reste d'actualité avec l'application Stop Covid, téléchargée actuellement par 2 038 000 personnes.
Nouvel objectif fixé par le gouvernement, vous le disiez Anne Fauquemberg, réaliser 1 million de tests par semaine en France, c'est possible sous certaines conditions, estime Pascal Maillet. Il préside le réseau de laboratoires Unilabs Hello.
C'est possible si on donne les moyens à tous les niveaux, qu'on nous aide sur la simplification des procédures administratives notamment. Il faut aussi qu'on mette en place des systèmes qui sont en amont des laboratoires, que les patients puissent s'enregistrer avant d'arriver dans le laboratoire pour désengorger les laboratoires. Aujourd'hui, les médecins généralistes, les pharmaciens, les techniciens de laboratoire, les étudiants en médecine, en pharmacie, en profession de santé en général, toutes ces personnes-là aujourd'hui sont autorisées à faire les prélèvements. On a effectivement un peu de soutien et d'aide de la part des étudiants en médecine notamment, ou en pharmacie, qui, sur leur temps libre ou en dehors de leur stage, viennent dans nos laboratoires. C'est plus là tout à fait que notre difficulté est la première. Il y a encore beaucoup de difficultés sur les réactifs. c'est pas fabriqué en France, c'est des sociétés asiatiques ou américaines pour la majeure partie, et ils suivent pas la cadence. Ils répartissent au mieux, je pense, dans les différents pays, mais ils n'arrivent pas à suivre une cadence aussi élevée.
Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence du coronavirus est 3 fois supérieur au seuil d'alerte. Le ministre de la Santé est ce soir à Marseille, où l'on ne peut pas dire qu'il soit accueilli à bras ouverts. Ce matin, la maire verte, Michèle Rubirola, la présidente LR de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, et le professeur Didier Raoult ont dénoncé de conserve la politique dite parisienne du gouvernement. Marseille s'estime même plus efficace que Paris face à la pandémie, Mathilde Vinceneux.
C'est d'abord le professeur Didier Raoult qui prend la parole. Il rappelle que l'IHU qu'il dirige effectue 3000 tests par jour et prend en charge rapidement des patients avec, si besoin, un traitement à l'hydroxychloroquine. Et ça fait ses preuves, selon lui.
Nous, on hospitalise plus quand même qu'à Paris. Donc la proportion de gens hospitalisés est plus importante parce qu'on pense qu'il faut traiter les gens le plus tôt possible. Et du coup, vous avez une proportion des gens qui passent en réanimation qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris, et une mortalité qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris parmi les cas diagnostiqués, hospitalisés, qui sont les chiffres que vous avez ici.
Ensuite, ce sont les élus, la maire Michèle Rubirola et la présidente du département et de la métropole Martine Vassal qui se sont félicités d'avoir pu mettre leur rivalité de côté, de travailler de concert. Elle reproche au gouvernement de ne pas savoir le faire, la maire de Marseille, Michèle Rubirola.
Ils décident depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans entamer le dialogue nécessaire avec les élus. Et surtout, sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les leurs. Le gouvernement doit à présent apporter les effectifs de police nationale suffisants pour faire respecter les arrêtés qu'il prend.
Michèle Rubirola qui demande donc plus de policiers, qui annonce aussi la distribution de 5000 masques et le renfort des opérations de dépistage dès la semaine prochaine dans les différents quartiers de Marseille.
Mathilde Vinceneux à Marseille. À Paris et en petite couronne, piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes devront circuler masqués à partir de demain matin 8h. Voilà qui risque encore d'affecter le tourisme parisien et francilien. Le secteur doit faire face cet été à l'absence de clientèle, notamment étrangère, d'affaires, mais aussi au manque de touristes français. Environ 14 millions de touristes en moins en premier semestre 2020 par rapport à l'an dernier. Cela représente un manque à gagner de 6 milliards d'euros, avec des perspectives bien incertaines, Sarah Ders.
Et oui, une tour Eiffel vide, aucune file d'attente devant la Joconde, des hôtels et des restaurants en cessation de paiement malgré l'opération L'Île-de-France fête ses restos lancée par la région pour accompagner la reprise. Des dégâts économiques et financiers considérables pour ces 500 000 acteurs du tourisme, particulièrement à Paris, avec tout de même un léger rebond en Île-de-France. Selon sa présidente Valérie Pécresse, il faut rassurer tous les touristes français et internationaux avec, en plus de l'aide économique, des mesures sanitaires concrètes.
Les hôtels de la Grande Couronne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val-d'Oise ou de l'Essonne ont été ouverts à 70% et ont été remplis à près de la moitié. Donc eux ont connu beaucoup moins la crise que les hôtels parisiens qui n'ont pas pu réouvrir cet été parce que justement les Français ne voulaient pas rester dans les villes cet été. Donc c'est pour ça que nous allons mettre en place avec tous les professionnels un label de sécurité sanitaire francilien. Il pourra être affiché dans les bars, dans les cafés, dans les hôtels, dans les musées pour prouver à tous nos clients, qu'ils soient français ou étrangers, que nous sommes une région sûre.
Et en plus de faire de l'Île-de-France une destination sûre, Valérie Pécresse incite les assureurs à plus de solidarité envers les acteurs du tourisme. Elle veut aussi faire perdurer les terrasses éphémères chauffées cet hiver pour éviter des attroupements sur la voie publique. Des décisions tributaires des choix du gouvernement et bien évidemment de l'évolution de la situation sanitaire.
Emmanuel Macron a décidé de suspendre cette année la chasse à la glu pour les grives et les merles. Cette décision survient alors que l'on attend une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne sur cette méthode de chasse controversée. Le 2 juillet, la Commission européenne avait une nouvelle fois demandé à la France de mettre fin à la chasse illégale et de réexaminer ses méthodes de capture d'oiseaux. Le chef de l'État se rend donc à l'avis de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Et c'est l'aboutissement d'une bataille qui durait depuis plusieurs semaines entre écologistes et chasseurs.
Plusieurs semaines, oui, car la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a clairement fait savoir au mois de juillet qu'elle avait l'intention de mettre fin à cette pratique en France. provoquant la réaction indignée des chasseurs. Chasseurs qui avaient à leur demande été reçus par le président de la République le 7 août et qui avaient annoncé une manifestation le 8 au pied du fort de Brégançon avant de se rétracter. Cette pratique de la chasse à la glu est interdite dans toute l'Union européenne depuis la directive Oiseaux de 2009. Mais la France continue à l'autoriser par dérogation dans 5 départements du Sud-Est, le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Et ça au nom du fait que c'est une pratique traditionnelle et ancestrale. Les chasseurs font valoir que ce n'est pas cruel, puisqu'on ne tue pas les oiseaux. Il s'agit de les capturer pour ensuite les mettre dans des cages afin qu'ils servent d'appât. Les défenseurs de la cause environnementale et de la biodiversité expliquent quant à eux que les oiseaux se blessent et parfois se tuent en se débattant, que d'autres oiseaux que les grives et les merles qu'on cherche à attraper sont aussi capturés, et plus globalement que c'est une pratique barbare à laquelle il faut mettre fin. Alors, ce qui a vraisemblablement conduit Emmanuel Macron à suspendre la chasse à la glu dès cette année, c'est d'une part que l'Europe demande pour la deuxième année consécutive à la France de se mettre en conformité avec la réglementation, et puis surtout que la défense du bien-être animal est une préoccupation dont font état de plus en plus de Français. On avait eu la surprise de voir le parti animaliste recueillir 2,4% aux élections européennes en 2019. Cet été, plusieurs sondages ont montré que 70 à 80% des personnes interrogées se disaient sensibles d'une manière ou d'une autre à la souffrance des animaux. Et une pétition en ligne pour réclamer l'organisation d'un référendum a recueilli plus de 500 000 signatures en quelques semaines.
Stéphane Robert, malgré une rentrée compliquée par la situation sanitaire, la secrétaire d'État chargée du handicap se réjouit. La semaine prochaine, annonce Sophie Cluzel, les écoles accueilleront 385 000 élèves en situation de handicap, soit 6% de plus que l'an dernier. Elle souligne également le recrutement de quelques 4 000 accompagnants supplémentaires. Le président de l'UNAPI, qui regroupe des associations de personnes handicapées mentales et de familles, ne partage cependant pas tout à fait son enthousiasme. Écoutez Luc Gâteau.
De nombreux enfants en situation de handicap restent encore sans solution de scolarisation pour cette rentrée ou vont bénéficier de bouts de solutions inadaptées. Est-ce que vous pensez que 4 heures de scolarisation par semaine, c'est quelque chose d'adapté? Ou on a des enfants qui sont en attente d'une place en classe ULIS, en attente d'une place en institution spécialisée, pas d'accès à la cantine, pas d'accompagnement du type AESH à la disposition de l'enfant. Je crois que le témoignage que nous renvoie notre plateforme larentrée.org nous montre par les parents eux-mêmes qui expliquent leur désarroi, leur inquiétude, leur ras-le-bol. Nous sommes loin encore des engagements pris par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 11 février. Qui disait « il n'y aura pas d'enfants sans solution de scolarisation ». Il y a encore de nombreux efforts à faire qu'il faut continuer.
Luc Gâteau de l'UNAPI, joint par Anne-Laure Jumet. Une attention particulière pour les écoliers en situation de handicap. Leurs enseignants se verront distribuer des masques transparents. C'est prévu aussi bien pour les professeurs ayant en charge des enfants malentendants que les enseignants des classes ULIS. Nouveau record en Inde avec 76 000 nouveaux cas de coronavirus détectés hier, la plus forte hausse du pays. 3,3 millions de personnes y ont contracté le virus selon les statistiques officielles. Chiffre probablement sous-évalué en raison d'un faible nombre de tests. La correspondance de Combastin.
Rien n'arrête la progression de l'épidémie de coronavirus en Inde. Hier, le sous-continent a enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas journaliers. 76 000 personnes y ont été déclarées positives, ce qui est aussi la troisième plus forte hausse jamais enregistrée au monde. Au total, 3,3 millions d'Indiens ont officiellement contracté le virus. Jaya Prakash Mulihil, épidémiologiste au Christian Medical College de Vellore, estime que la progression de la pandémie pourrait être bien plus importante. En Inde, une grande partie de la population est atteinte. Les statistiques sur les cas proviennent de deux sources. Les personnes qui se présentent à l'hôpital et sont atteintes du virus et les personnes qui se font tester positives, même si elles sont asymptomatiques. Prenez ces chiffres, multipliez-les par 10 et vous aurez le nombre de cas réels. La multiplication des cas est aussi liée au plus grand nombre de tests. Environ 1 million seraient effectués chaque jour en Inde. Mais ce chiffre reste très faible pour la deuxième population mondiale. Avec le déplacement du virus vers les campagnes, l'Inde n'a pas encore atteint son pic épidémique. Plus de 60 000 personnes en sont décédées à ce jour, soit un taux de mortalité d'1,8% parmi les plus faibles de la planète. Des chiffres encourageants à prendre là encore avec des pincettes.
L'économie des États-Unis a connu au deuxième trimestre une contraction record de plus de 30%. Une nouvelle estimation le confirme. C'est la plus importante contraction du PIB enregistrée depuis 1947, année d'introduction de cette statistique. L'économie des États-Unis reste saine, note le président de la Banque centrale américaine, mais le chômage pourrait rester élevé pendant longtemps, en particulier dans les secteurs qui ont été les plus durement affectés par la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. On attend ce soir le discours de Donald Trump qui s'apprête à accepter l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Hier, les Républicains ont placé le thème du maintien de l'ordre au centre de leur convention nationale, accusant les démocrates d'encourager les troubles aux États-Unis et saluant la ligne dure adoptée par Donald Trump. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Aurélie.
Vous suivez attentivement cette convention qui donne clairement le ton de la campagne présidentielle des Républicains.
Oui, vous avez raison. Alors, on verra bien à quoi ressemblera ce discours que Trump doit prononcer ce soir sur la pelouse sud de la Maison-Blanche devant 1000 à 1500 invités. Mais ses conseillers font savoir que Donald Trump va évidemment défendre son bilan et puis aussi qu'il présentera sa vision pour les 4 prochaines années. Tout ça est assez convenu, vous me direz, pour un candidat qui vient d'être investi. Mais la tonalité générale devrait ressembler à ce qu'on a entendu pendant ces 3 jours de convention républicaine. D'abord, Trump comme rempart face aux gauchistes, radicaux qui veulent changer l'Amérique, comprenez Biden et ses alliés. Ça, c'est un refrain qu'on a beaucoup entendu, celui du président de la loi et de l'ordre face aux émeutiers notamment. Sur le plan économique, Donald Trump va répéter qu'avant l'épidémie de coronavirus, tous les signaux étaient au vert grâce à son administration. Et d'ailleurs, il va aussi falloir surveiller comment Trump évoque cette épidémie. Plus de 180 000 morts aux États-Unis, mathématiques quasi absentes des 3 premiers jours de la convention. Et puis il y aura aussi, c'est certain, tous les thèmes chers à son électorat conservateur. La religion, le port d'armes, la lutte contre l'avortement, l'identité américaine. Tout ça pour parler à sa base. Alors qu'on sait que Donald Trump est à la traîne dans les sondages derrière Joe Biden. Mais il reste encore un peu plus de 2 mois de campagne.
Grégory Phillips en direct de Washington. Et l'ouragan Laura a atteint les États-Unis, faisant sa première victime en Louisiane, une adolescente tuée par la chute d'un arbre sur sa maison. L'ouragan a touché terre en catégorie 4 avec des vents soutenus de 240 km/h. Les autorités chinoises ont arrêté dimanche une douzaine de personnes sur un bateau à moteur, parmi elles un ou plusieurs manifestants hongkongais en liberté conditionnelle qui tentaient, semble-t-il, de fuir vers Taïwan. Taïwan où le gouvernement a offert de venir en aide aux manifestants menacés de poursuites judiciaires. Les détails avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.
Les informations sur cette opération insolite n'ont émergé que plusieurs jours après les faits, par le biais d'un message posté sur le compte Weibo, le Twitter chinois, par les gardes-côtes de Chine continentale. Le bateau à moteur, à bord duquel se trouvaient 12 personnes, était au large des côtes de la province du Guangdong et semblait se diriger vers Taïwan quand il a été intercepté. Les gardes-côtes n'ont donné que le nom de famille de 2 des personnes arrêtées, Li et Tang, mais la presse locale à Hong Kong a indiqué qu'il s'agissait sans doute de Andy Li, qui était en liberté conditionnelle après avoir été mis en examen à Hong Kong sous la nouvelle loi de sécurité nationale lors de la vague d'arrestation du 10 août. Privé de son passeport, il est possible qu'il ait tenté de trouver refuge à Taïwan en fuyant par la mer. L'île de Taïwan se trouve à 450 milles nautiques au nord-est de Hong Kong, 750 kilomètres. La traversée par la mer prend environ 2 jours. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, avait indiqué en juillet son intention d'accueillir et d'aider les jeunes Hongkongais qui étaient menacés par la nouvelle loi de sécurité nationale. Le chef de la police de Hong Kong, Chris Tang, a indiqué jeudi en fin de journée être au courant de ces informations, tout en affirmant qu'il n'avait encore reçu aucun détail de la part des autorités chinoises.
Et pour finir, jetons un coup d'œil sur le réseau social vidéo TikTok, car depuis quelques semaines, une nouvelle tendance a émergé, une tendance qui met particulièrement mal à l'aise. Des jeunes se mettent en scène en jouant des victimes de l'Holocauste. Alors est-ce que c'est censé être un hommage? L'intention n'est pas vraiment claire et le musée d'Auschwitz a réagi, Benjamin Recouvreur.
Cette tendance est blessante et offensante pour le mémorial d'Auschwitz qui s'est exprimé sur Twitter après que des dizaines de vidéos de ce type ont émergé sur TikTok. On y voit des adolescents, souvent américains, parfois très jeunes, qui se déguisent en victimes de la Shoah avec du maquillage pour creuser leur visage et faire apparaître des ecchymoses, des brûlures. Ils portent même parfois une étoile jaune. Sur des musiques mélancoliques, des morceaux de texte défilent sur l'écran, racontent comment ces victimes fictives ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration nazis. Beaucoup d'utilisateurs ont été choqués par ces vidéos. Certains adolescents se sont excusés face à ce tollé. « Je voulais simplement mettre en lumière ces événements », regrette maladroitement une jeune américaine. Le mémorial d'Auschwitz s'inquiète d'une tendance à la banalisation de l'histoire, mais incite à en parler pour sensibiliser les jeunes générations. La plateforme TikTok, elle, n'a pas réagi face à un phénomène qui interroge à nouveau la modération de ses contenus.
Benjamin Recouvreur, la météo, pluie au sud, averse au nord et des orages ici et là. Si vous cherchez le soleil demain, vous le trouverez sur l'extrême sud de la région PACA et sur la Corse. Les températures seront en nette baisse de 13 à 24 degrés le matin. L'après-midi, il fera 18 à 25 sur la plupart des régions, jusqu'à 33 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.